Alors, si vous étiez là dimanche dernier, vous avez sans doute remarqué que, bon, non seulement nous avons été bénis par les jeunes, mais nous avons également été bénis par le Seigneur, par son esprit qui était à l'œuvre, qui a parlé à plusieurs reprises, de plusieurs manières différentes pendant le culte. Ben, aujourd'hui, nous allons continuer donc dans la suite de ce que nous avons vécu ensemble dimanche dernier, à travers donc les trois premiers versets de l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 1, les versets 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, nous voyons dans ce texte que Dieu change parfois sa manière, la méthode, le moyen pour s'exprimer. Ce qui ne change pas, c'est que Dieu parle. Et on a fait l'expérience la semaine dernière. Et on va voir également que notre réaction doit toujours être le même face à ce qu'il dit. Mais d'abord donc, on voit que dans la Bible, Dieu se présente comme un Dieu qui aime se révéler, qui désire se révéler, et donc qui se révèle, qui s'est révélé depuis le début. Et même la parole nous dit que dès le tout commencement de la création, Dieu a été en train de se révéler. Florent, le week-end dernier, nous a cité psaume 19. Ce psaume qui est repris plus tard par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, qui nous dit que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Autrement dit, la création, la nature, nous révèle et nous parle de la grandeur de Dieu. Et puis donc, verset 5, leur retentissement parcourt toute la terre. Pour ça qu'après, dans Romains chapitre 1, l'apôtre Paul va dire que personne n'est sans excuse s'il ne recherche pas Dieu, s'il cherche autre solution que le Dieu créateur, puisque le retentissement de la nature parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Donc, dès le début, Dieu se révèle, donc, dans Romains chapitre 1, verset 20, Paul conclut, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Donc Dieu s'est révélé à l'humanité tout entière à travers sa création, en nous montrant quel genre de Dieu il est, quelle puissance il a, ce dont il est capable. Mais après, bien évidemment, Dieu aussi a choisi de se révéler directement en échangeant avec ses créatures, avec les êtres humains, et souvent à travers des êtres humains. Et l'auteur de cet épître aux Hébreux, dans ce premier verset, donc, souligne le fait que Dieu a ajouté à cette révélation la voix des prophètes. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. L'Ancien Testament nous montre toutes ces générations de personnes dont Dieu s'est servi pour parler à son peuple, pour se révéler à son peuple. Moïse et Aaron avaient un rôle très particulier dans cette révélation et ont reçu en particulier donc la loi du Seigneur, mais même avant d'avoir reçu la loi sur le mont Sinaï, en Exode chapitre 7, l'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Vois, je t'envoie comme Dieu à Pharaon. Je vais mettre en toi ma parole et tu parleras de ma part. Et Aaron sera ton prophète, donc, qui va communiquer à Pharaon cette parole que j'ai été confiée. Et puis après, donc, son rôle très particulier de recevoir la loi de Dieu pour le peuple d'Israël. En Nombre 12, verset 6, il dit « Écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. » Donc, tu dis, je choisis parfois des prophètes. Moïse est même au-dessus d'eux. Et j'ai une relation particulière avec eux. Donc, Moïse qui a pu établir donc la loi et la structure pour la suite du peuple d'Israël, qui mettait en place les bases qui devaient durer jusqu'à la venue de celui qui était visé par toutes les promesses de Dieu, jusqu'à la venue de Jésus. Mais donc, après Moïse, il y avait aussi toute une série de prophètes dans chaque génération que Dieu a utilisé pour se révéler à son peuple. Certains de ces prophètes étaient aussi des juges du peuple d'Israël. Samuel, par exemple. Après Samuel, il y a eu le roi David qui a prophétisé, en outre, sous forme des psaumes. Les prophètes rappelaient au peuple les voies de Dieu, présentaient qui était Dieu. Et Dieu donc communiquait des messages précis à des personnes précises dans des situations précises de l'histoire, et les prophètes ont appliqué l'enseignement de Dieu aux situations de leur époque. On le voit par exemple dans les études bibliques dans Ésaïe, n'est-ce pas? Mais le passage souligne également qu'à l'époque du Nouveau Testament, il y a eu un grand changement. Donc, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc, après avoir utilisé ces prophètes parmi son peuple pour s'adresser à son peuple, dans le Nouveau Testament, Dieu lui-même est venu dans la personne de Jésus. Il a pris un corps humain, il est venu lui-même sur la terre et s'est adressé directement aux gens autour de lui par la bouche de son fils. D'ailleurs, Jean décrit ce fils qui est venu comme étant la parole. Jean chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. » Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc Dieu s'était adressé au peuple d'Israël par les prophètes, mais après, il est venu lui-même, la parole éternelle, et ont pris un corps humain et ont vécu donc en Israël pour s'adresser directement à son peuple. Il est venu enseignant la parole. Et la Bible nous dit qu'il avait un enseignement qui était unique à lui, qui ne ressemblait pas aux autres enseignements que les gens recevaient de leurs dirigeants, mais que Jésus enseignait la parole avec autorité. L'autorité d'être cette parole éternelle. Matthieu chapitre 4, verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et Marc 1, verset 22, le peuple était frappé de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Dans Jean chapitre 3, Jésus explique comment cela se faisait qu'il avait cette autorité lorsqu'il discute avec Nicodème. Et il dit, nous parlons des choses que nous connaissons. Parce qu'il était effectivement cette parole éternelle qui était avec Dieu dès le commencement, qui était Dieu. Et donc, il parlait des choses connues. Il développait cette révélation de la part de Dieu, nous montrait la nature de Dieu, nous montrait ce que Dieu désire pour nous, nous montrait ce que Dieu avait planifié pour sauver l'humanité. Comment Dieu comptait intervenir pour couvrir le péché. Comment Dieu allait accomplir toutes les promesses qu'il avait faites dans l'Ancien Testament. Il est venu parler à son peuple. Bon, la Bible nous dit, certains n'ont pas voulu entendre cette parole. On y viendra tout à l'heure. Que donc certains ont refusé d'écouter. Mais il y a ce verset justement au début de l'évangile de Jean qui nous dit que malgré ceux qui ne voulaient pas de lui, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont accueilli cette révélation de la part du Seigneur, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc Jésus a enseigné avec cette autorité qui venait du fait de parler de choses qu'il connaissait, mais il a aussi donc enseigné, révélé le Seigneur par sa vie, par sa manière d'être, par tout ce qui était en lui. Il nous a montré à quoi ressemble Dieu dans une forme que nous pouvions comprendre, dans une forme humaine. Donc, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et puis donc, l'auteur va commencer à parler de ce Fils, à décrire ce Fils, à décrire la différence entre Jésus et ce qui existait déjà dans l'Ancien Testament. Mais une chose que l'auteur ne souligne pas dans ce texte, mais que Jésus a souligné dans son enseignement, c'est que Dieu n'a pas cessé de communiquer depuis. Alors, bon, normal, c'est normal. Pour lui, donc, au point où il était dans le temps, il y a plus ou moins 2000 ans, il a dit, par le passé, Dieu s'est révélé, il a parlé par les prophètes. Dans ces derniers temps, il a parlé par son Fils. Nous, 2000 ans plus tard, nous pouvons dire, et depuis, Dieu a continué à se révéler. Dieu a continué à parler à son peuple par le Saint-Esprit qui a été donné. Bon, je sais que l'Esprit de Dieu était déjà à l'œuvre dans l'Ancien Testament. Pierre le dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 21 quand il dit « Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc certes, les prophètes de l'Ancien Testament étaient poussés par le Saint-Esprit pour qu'ils parlent de la part de Dieu, mais généralement c'était sur une personne particulière pour une mission particulière à un moment particulier. Mais suite à la venue de Jésus, la Bible nous dit qu'il y a eu un grand changement, une grande différence depuis ce que d'ailleurs on a pu vivre dimanche dernier dans le culte. Actes chapitre 2, verset 16. C'est ici, donc le jour de la Pentecôte, lorsque les gens se demandaient ce qui était en train de se passer, lorsque tous les apôtres, tous ceux dans la chambre haute, se sont mis à prophétiser, à parler en langue. Pierre dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu. Et nous savons que lorsque la Bible parle des derniers jours, c'est donc à partir de la résurrection de Jésus. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Non plus donc une personne particulière pour une mission particulière, mais Dieu qui allait répandre son esprit sur toute l'Église pour que l'Église puisse le servir, pour que Dieu puisse se révéler à l'intérieur comme à travers son Église. Et l'apôtre Paul explique comment cela allait se manifester dans l'Église, allait toucher l'Église dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Quand il dit donc, à partir du premier verset, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. » Les prophètes déjà de l'Ancien Testament se moquaient toujours de ces statues que les gens fabriquaient et qu'ils adoraient. Et les prophètes disaient, ben, comment voulez-vous qu'un bout de bois qui est l'autre bout du morceau que vous avez utilisé pour chauffer votre repas, comment voulez-vous que cette œuvre d'art puisse jouer le rôle de Dieu et se révéler à vous et vous parler? Vous étiez donc entraînés vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle de l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, non plus un homme particulier, mais à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est donc ce que nous avons pu vivre dimanche dernier par exemple, plusieurs message prophétique à travers différentes personnes, un message en langue, une interprétation du message en langue, etc. L'Esprit qui continue à révéler, qui continue à parler, pour que nous puissions dire, ben oui, autrefois, Dieu a parlé au peuple d'Israël par les prophètes. À l'époque des évangiles, Dieu a parlé encore par son Fils qui est venu. Depuis, Dieu parle encore par l'Esprit qu'il a répandu sur son Église en accomplissement de ces promesses que Jésus avait donné que lorsqu'il partait chez le Père, il allait demander au Père d'envoyer l'Esprit sur l'Église pour que Dieu puisse continuer à parler, pour que Dieu puisse continuer à se révéler. Il est important qu'on soit conscient de la bénédiction que nous avons lorsque Dieu s'adresse à nous. Ce n'est pas à être pris à la légère. La Bible nous dit que c'est une bénédiction lorsque Dieu s'adresse à nous. Parce que finalement, nous voyons dans les prophéties de l'Ancien Testament, on l'a vu dans Ésaïe, on voit également dans Amos chapitre 8 verset 11, que si Dieu décide de ne pas parler, c'est une grande condamnation, un grand pas de jugement. Amos chapitre 8 verset 11, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. » Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Et Dieu disait, ben, je ne vous parlerai plus. Souvent, parce qu'il a reconnu qu'il perdait son temps à parler. Parce que lui parlait, mais les gens à qui il s'adressait ne prêtaient aucune attention à ce qu'il avait à dire. Parfois, nous voyons dans les psaumes, par exemple, que le timing de Dieu n'est pas toujours le nôtre, que nous aimerions avoir une réponse instantanée et parfois Dieu se fait attendre, mais il finit toujours par parler au bon moment. Mais si on ferme nos cœurs à sa parole, parfois Dieu dit, ben, dans ce cas-là, pourquoi je perdrais mon temps à parler? Donc nous devons être réjouis, reconnaissant lorsque le Seigneur nous parle. Mais surtout, lorsqu'il nous parle, nous devons y prêter attention et agir. C'est ça justement une des choses fondamentales qui ne change pas au niveau des révélations de Dieu, au niveau de Dieu qui parle. La personne utilisée peut changer. Dieu a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières, disait l'auteur aux Hébreux. La méthode peut changer, la personne peut changer, l'application de sa parole peut changer. Mais déjà le contenu fondamental ne changera pas et ne peut changer. Apocalypse 19, verset 10 nous dit « Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie ». Dans l'Ancien Testament, Dieu se révélait pour préparer le monde à la venue de Jésus. Puis, il est venu dans le corps de son Fils pour se révéler à nous. Le Saint-Esprit nous attire vers Jésus, parle de la part de Jésus. Jésus pouvait dire, lorsque le Consolateur viendra, il ne dira rien de lui-même, mais il parlera de moi, il vous attirera vers moi. Mais l'autre chose qui ne change pas en dehors du contenu, c'est la réaction qui est importante, c'est la réaction nécessaire lorsque Dieu nous parle. Dans Hébreux chapitre 3, à partir du verset 7, donc après avoir parlé, du fait que Dieu a parlé dans les derniers temps par son Fils. L'auteur nous dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres. Pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Dieu parle, mais notre réaction est essentielle. Notre réaction est essentielle à cause de la nature de la parole. Si vraiment c'est Dieu qui parle, alors nous devons écouter et agir. Alors certes, la Bible nous appelle à peser même les dons spirituels. La Bible nous dit à plusieurs reprises que parfois ce sont des hommes qui parlent d'eux-mêmes, que parfois ce sont des mauvais esprits qui puissent parler. Et que donc il est important de peser ce qui est dit pour voir est-ce conforme à ce que le Saint-Esprit nous a dit. Vous savez, tout ce qui est miraculeux, tout ce qui est surnaturel n'est pas forcément de Dieu. Nous devons peser ce qui est dit. Le Saint-Esprit ne change pas d'avis à mi-chemin en disant « Oui, bon, c'est vrai, j'avais dit ça à l'époque biblique, mais bon, maintenant je vais changer d'avis et je vais vous dire le contraire. » Ce qu'il va nous dire va être conforme à sa parole. C'est pour ça que donc, dans 1 Corinthiens 14, 29, par exemple, l'apôtre Paul, en parlant des prophètes, dit que les autres jugent ce qui est dit. Et Jean va dire, « Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Nous devons donc nous assurer qu'il s'agit bien de Dieu qui nous parle. Dans les prédications également, il faut réfléchir et voir, est-ce conforme à ce que nous dit la parole de Dieu? Non pas, est-ce qu'on peut prendre quelques mots d'un verset tiré quelque part et construire toute une théorie dessus, mais est-ce que ça correspond à ce qui est révélé par le Seigneur depuis le commencement de sa révélation jusqu'au bout de ce qu'il a révélé dans la Bible? Est-ce que le Saint-Esprit est en train de nous rappeler ce que le Seigneur nous a dit? On doit juger ce qui est communiqué, mais non pas juger le message de la Bible. Les apôtres l'ont déjà fait. De Timothée, chapitre 3, verset 15. « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » On ne juge pas le contenu de la Bible sur les avis de la société, sur mes propres goûts, sur quelque chose qui, soi-disant, viendrait de la part de Dieu. Et la Bible nous dit que l'apôtre Paul dit aux Galates, même si, soi-disant, un ange se présentait devant vous, ou si moi-même je vous écrivais en vous disant autre chose que ce qui a déjà été révélé, n'écoutez pas cela, mais restez fidèles à ce que Dieu a révélé dès le commencement. Et Pierre aussi, dans 2 Pierre 3, parle de la fiabilité des Écritures, l'Ancien Testament et les écrits des apôtres, ces Écritures qui sont donc utiles pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Donc on doit juger ce qui est dit pour être sûr que c'est Dieu qui nous parle. Mais si vraiment nous sommes convaincus qu'il s'agit de Dieu qui parle, que c'est conforme à ce qu'il a révélé dès le commencement, nous ne pouvons plus prendre cela à la légère. et l'ignorer. Si vraiment Dieu prend la peine de s'adresser à nous, nous devons écouter. Nous devons dire avec Samuel, « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Et on fait ce que tu nous demandes. On ne fait pas ce qu'on a envie de faire. On fait ce que toi, tu dis. On croit ce que toi, tu nous dis. On dit souvent qu'on vit par la foi. La Bible nous dit que la foi se voit dans nos réactions. C'est facile de dire, oui, je crois que Dieu parle. C'est facile de dire, oui, ben, je suis pentecôtiste, donc je crois que le Saint-Esprit donne des dons à l'Église et qu'il parle tantôt par l'un, tantôt par l'autre. Je crois que les prophéties existent, je crois que le parler en langue existe. On saura à quel point on y croit réellement par notre réaction. Vous savez, c'est très facile de dire, de limiter notre foi qu'à la théorie. Mais si vraiment Dieu parle, on a intérêt à être à l'écoute, à être attentif et surtout à répondre à ce qu'il nous dit. Sinon, soit on ne croit pas vraiment que c'était Dieu qui nous a parlé, soit on ne croit pas que Dieu mérite notre attention et notre obéissance. C'est aussi simple que ça. Si Dieu nous parle, nous devons écouter et obéir. Jésus même a dit que notre réaction devant sa parole va révéler l'état véritable de notre relation avec lui. Lorsque on est en train, avec tous nos frères et sœurs, de chanter des louanges de Dieu, c'est très facile de dire à Jésus, « Oui, oui, Seigneur, je t'aime. » Mais qu'est-ce que Jésus a dit en Jean 14, verset 15? « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Cette semaine, c'est la fête du Saint-Valentin. Les paroles dans des cartes ou dans des cadeaux ou autre chose ne veulent pas vraiment dire grand-chose. Il n'y a pas cet vrai engagement, cette vraie réaction derrière. Jésus dit, vos paroles, c'est sympa, mais si c'est que des paroles, à quoi bon que des paroles? Vous pouvez me dire mille fois, je t'aime Seigneur, mais je le verrai par votre réaction. Je verrai si vous m'aimez, si vous gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Si donc nous ne voulons pas écouter et obéir à sa parole, il est bon temps de se regarder dans le miroir et faire un constat quant à l'état de notre amour pour le Seigneur. Car finalement, le problème fondamental n'est pas un problème d'obéissance, de faiblesse ou autre chose, c'est un problème d'amour que nous devons régler à genoux devant le Seigneur. Si Dieu nous parle, nous devons prendre sa parole à cœur et nous devons obéir à sa parole, car il s'agit bel et bien de Dieu qui parle. Alors ce matin, prenons quelques moments devant le Seigneur. Permettons à l'Esprit de Dieu de sonder nos cœurs. Si le Seigneur nous a parlé dimanche dernier, là c'était un cas très clair, avec des messages concordants, très clairs, nécessitant une réaction. Alors permettons à l'Esprit de Dieu de nous convaincre encore aujourd'hui. Prenons les mesures qui sont les conséquences de ce que Dieu a dit. Si le Seigneur nous parle depuis quelque temps sur tel ou tel sujet, sur telle ou telle question, plions le genou aujourd'hui devant lui. Reconnaissons Dieu pour Dieu. Reconnaissons que Dieu est un Dieu qui parle aujourd'hui et que lorsqu'il parle, il veut notre attention. Lorsqu'il parle, il veut notre obéissance. Celui qui m'aime, c'est celui qui a ma parole et qui obéit à ma parole, qui garde mes commandements. Permettons donc à l'Esprit de Dieu de nous parler encore aujourd'hui. Évitons de se trouver dans une situation décrit comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux, comme étant quelqu'un avec un cœur mauvais et incrédule, qui endurcit son cœur devant la parole de Dieu, qui tente le Seigneur, qui le met à l'épreuve, que nous puissions donc avoir des cœurs souples devant la parole de Dieu, où Dieu est capable de nous parler, et où nous écoutons, et où nous obéissons. Si Dieu vous parle quelque chose de précis, vous encourage vraiment à prendre ça au sérieux et surtout à prendre les mesures nécessaires devant ce que Dieu a à vous dire.